Pascal CV.
Monsieur Fortin.
Es-tu une amateur de prix citron?
Les derniers auxquels j'ai assisté, ben c'était au cégep. Je pense pas que c'est crédible. Puis je pense pas que sur la place publique, ce soit des prix que tout le monde souhaite recevoir.
D'après moi, je suis un peu... je dois avoir une double personnalité parce que je suis dans une personnalité de good vibes only. Mais quand on distribue des prix citron, je trouve toujours ça drôle.
Un genre de je te distribue des fleurs puis le pot vient aussi, mais ça veut pas dire que c'est toi qui le reçois dans le front.
Ouais, c'est ça. T'es un genre de t'as don vin et tes poches dans ce que tu viens de faire là. Ça doit être parce que je suis capable d'avoir de l'autodérision de moi-même. Donc, ça doit être pour ça que j'aime les prix citron. Il n'y aura pas juste des prix citron là, qu'on va faire avec notre collègue Lambert. Il va y avoir des fleurs aussi. Mais j'ai hâte d'entendre ces prix citron. J'ai hâte de me commettre sur ces prix citron en disant « Ah oui, t'as raison. »
J'ai l'impression qu'on ne sera pas trop surpris. Non, parce que, je veux dire, on dirait que c'est évident, ceux qui nous ont fait avaler surette.
Ah ouais, ça se peut fort bien. Lambert Drainville, comment ça va, mon chum?
Bonjour, ma gang de fous, comment vous allez?
Ça va super bien, Lambert Drainville, vulgarisateur d'actualité hors pair sur les médias sociaux. Hey Lambert, avant qu'on passe aux fleurs puis au prix citron, tu t'en vas faire une entrevue avec Pierre Poilievre dans un salon de thé. Là. Explique-moi ça. Là.
Ouais. Ben, je trouve ça le fun. Écoute, c'est son équipe qui m'a contacté. Il fait une tournée d'entrevue au Québec, puis bon, ils m'ont ajouté à la liste d'entrevues qu'ils vont faire. Évidemment, moi, j'ai toujours ma touche un peu plus humaine, comique. On se prend pas trop au sérieux. Fait que ce que je leur ai pitché comme idée, c'est, regarde, Pierre Poilievre, il est vu par... Écoute, son taux d'approbation au Québec est à moins 38. C'est le pire endroit au Canada pour lui. Il y a beaucoup de gens au Québec qui le voient comme le grand méchant loup de la politique fédérale. Fait que j'ai dit... Quoi de mieux pour casser l'image du grand méchant loup que d'aller faire l'entrevue dans l'endroit le plus rose probablement à Montréal. C'est un local de thé tout rose avec des assiettes en porcelaine, puis on prend le thé, puis tout. Fait que,
manque juste les chats.
Ouais, c'est ça, manque juste les chats. Je pense que ça va être vraiment drôle, puis je vais avoir des questions un peu plus funnées pour lui. Et également, bien sûr, des questions plus corsées.
Alors, on te souhaite une excellente entrevue, Lambert Drainville, et tu nous en reparleras avec plaisir vendredi. Place aux fleurs et aux citrons de la dernière session à l'Assemblée nationale. Tu nous as sorti des fleurs et des citrons pour chaque parti politique. Si on commençait avec les fleurs, tiens, quelle serait ta première fleur, là, peu importe le parti politique?
Bon, on va aller en ordre là, de députation là, pour rendre ça... égal pour tout le monde, mais c'est ça. J'en ai un pour chaque parti, pour comme ça, tout le monde est égal. Pour la CAQ, moi, mon étoile de la session, c'est France-Hélène Duranceau.
OK.
Ouais, pourquoi? Ben, bonne négociation avec les médecins.
Entre autres, écoute, elle a eu un passage très, très ardu en tant que ministre de l'Habitation.
Oh oui,
c'est
vraiment.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je trouve qu'elle est beaucoup plus à sa place dans ses nouvelles fonctions comme présidente du Conseil du Trésor. Elle s'est fait donner un mandat par le premier ministre de faire le ménage dans la fonction publique après que la taille de l'État ait augmenté de 12 000 dans les 7 premières années de la CAQ. Et en un an, elle a réussi à couper plus que 2000 postes et également justement de prendre le relais de Christian Dubé alors que les négociations avec les médecins étaient dans une impasse. Et l'entente se signera vendredi. Alors voilà, elle s'est fait donner un mandat. Mm-hmm. Elle a livré et pour une première fois depuis que la CAQ est au gouvernement, malgré que ce soit un parti qui promettait depuis leur tout début de réduire la taille de la fonction publique, un élément qui n'était pas parvenu à faire pendant 7 ans, ben elle a réussi en seulement un an à faire diminuer ça. Pour avoir travaillé avec la fonction publique et pour connaître justement la hausse d'effectifs dans les dernières années, je pense qu'il y avait effectivement un petit peu de marge de manœuvre pour une optimisation, disons ça comme ça.
Libéraux, moi j'irais avec mon chef d'Éragie comme la presse l'avait dit. Toi, Pascal Séva, qu'est-ce que tu penses que Lambert Drainville a choisi?
C'est un petit peu difficile d'y aller autrement, là, à moins qu'il se tourne vers Marois Risky.
Ouais. Toi, Lambert Drainville?
Non, moi, mon chef d'Éragie aurait été un excellent choix. Un excellent choix. C'est André Fortin que j'ai choisi, moi, qui a été visible je te dirais, mon CEF a fait un super, super travail dans tout ce qui est la commission d'enquête sur le fiasco Saclic.
Vraiment.
Et je lui lève mon chapeau là-dessus. Il a fait un travail de moine. Vraiment, c'était le modèle qu'on veut pour un député de l'opposition. Mais André Fortin, je te dirais, sur l'année au complet, il a vraiment été présent toute l'année, d'abord et avant tout sur le projet de loi 106. Puis par la suite, ben, il a pris le poste là, récemment de Marois Risky comme chef parlementaire. On continue de critiquer le gouvernement sur la loi 2, sur leur gestion du réseau de la santé. Évidemment, lui, un fier représentant de la région de l'Outaouais, député de Pontiac, et une région évidemment qui est énormément touchée par l'exode des médecins, alors que plusieurs d'entre eux ont pris la décision d'aller pratiquer en Ontario. Alors, je trouve que c'est une valeur très fiable pour le Parti libéral.
Ouais, il est
efficace. Toujours là. Il est efficace. Il est toujours sur le bon ton. Il est comme assez cinglant, sans tomber dans la caricature, sans tomber dans l'exagération. Alors, il est fiable, il est rigoureux. Puis, c'est ça, je trouve que c'est un gars qui est très... c'est ça.
Est-ce que tu juges que chaque parti aurait besoin d'un M. Fortin dans le sens où c'est quelqu'un qui aspire pas nécessairement à les plus hauts, il est très bien dans ses bottines et il fait un travail d'arrière-terrain, si on veut, qu'on voit un petit peu moins au niveau des électeurs, mais beaucoup à l'intérieur du parti et sinon à l'Assemblée nationale?
Oui, je suis convaincu que si tu demandais à n'importe quel des partis politiques, prendriez-vous un André Fortin ou prendriez-vous André Fortin lui-même dans votre formation politique, je suis convaincu que c'est un oui sans équivoque pour toutes les formations.
PQ, j'aurais tendance à y aller avec Pascal Paradis. Moi, Pascal, c'est sûrement parce qu'on est dans la région de Québec, mais je trouve que c'est un député efficace. Il est sur les dossiers. Par exemple, ce qui se passe avec le Mont-Saint-Anne, c'est lui qui en a parlé en premier. Puis si je pense à Québec solidaire, là, je dirais Gabriel Nadeau-Dubois parce qu'il les a tous laissés tomber. Il a bien fait en tabarouette.
Moi, peut-être qu'au niveau du PQ, je me serais effectivement tournée vers M. Paradis. Tu as tout le temps M. Bérubé quand même, ouais, là, qui se tient et qui tient le fort depuis des années. Peut-être que là, Lambert va prôner cela. C'est sûr que nous, on est dans la capitale nationale, puis c'est vrai que c'est beaucoup à afficher M. Paradis et très disponible en entrevue. Mm-hmm. Ça, c'est bon. Solzanetti, je veux dire, il flanche pas, lui. Il reste droit dans la tempête, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il fait encore une tournée des médias. Ce sera peut-être là qu'on va lancer des fleurs.
Moi, je me suis effectivement allé avec Pascal Paradis pour le Parti québécois, probablement pour les mêmes raisons que vous. Puis c'est pas parce qu'il vient de Québec, malgré que ce soit quelque chose de toujours de positif pour moi, évidemment. Mais écoute, il est rigoureux, il est fiable. Tu sais, un peu dans le même créneau qu'André Fortin. T'sais, c'est un gars sur qui on peut toujours se fier, qui travaille ses dossiers en profondeur. Je me rappelle de lui. J'ai en tête ses interventions en pleine nuit pendant l'étude du projet de loi 2 en plein baillon, là, en plein milieu de la nuit. Je le trouvais très bon, très efficace. Et donc, c'est pas le parlementaire le plus expérimenté. Il n'a pas été élu, ça fait si longtemps que ça. Mais déjà, il prend sa place au sein du parti. Puis je trouve qu'il leur amène une grande crédibilité. C'est un gars qui tombe jamais dans les réactions émotives, toujours terre à terre. Alors, mon étoile, ma fleur, va à Pascal Paradis. Et pour Québec solidaire, moi, ça fait aucun doute, là, je vous le dis, là, il n'y en a pas aucun autre qui passait même proche de mon choix, qui s'arrête sur Guillaume Clich-Rivard,
okay,
qui est le nouveau leader du parti. C'est lui qui a été élu dans Saint-Henri-Sainte-Anne en remplacement de Dominique Anglade. C'est un avocat en immigration. Donc, c'est vraiment son dossier de prédilection avec Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé qui quitte tranquillement. C'est comme lui qui s'est positionné comme l'étoile montante du parti. Et justement, là, en tant que critique en immigration, il a bien mis en lumière là, l'explosion des délais, des traitements, des dossiers d'immigration, mais aussi les histoires déchirantes. D'ailleurs, qui font beaucoup jaser ces jours-ci à Québec là, avec Bruno Marchand qui a les deux mains dans ce dossier-là.
Vraiment.
Mais l'abandon, évidemment, par le gouvernement du programme de l'expérience québécoise, le fameux PEC, qui s'est suivi de plusieurs histoires d'horreur de gens qui sont arrivés ici en pensant pouvoir rester et qui, malheureusement, vont devoir quitter. Alors, j'ai trouvé Guillaume Clich-Rivard très, très efficace dans ce type de dossier-là. Et même en tant que leader, là, la période des questions, c'est évidemment quelqu'un qui a une formation en droit, ça paraît, s'exprime bien. quelqu'un qui un parlementaire qui gagne à être connu.
On termine les fleurs avec chez les indépendants. Moi, je donnerais Lionel Carman parce que c'est vraiment lui qui a réouvert les voies de passage entre les médecins et le gouvernement. Toi, Pascal, as-tu pensé à un indépendant particulier?
Lionel Carman, c'est sûr. Je pense qu'on a eu un genre de « Hey, s'il faut que je choisisse entre ma famille et la politique. Mm-hmm. » Ce sont mes deux familles, mais je vais aller quand même avec ma famille. Vraiment de sang. Et ça a permis effectivement sûrement quand même à François Legault de
Prise de conscience.
Oui, c'est ça, à ses affaires.
Oui, je suis à la même place que vous. C'est Lionel Carman, mon étoile, ma fleur de la session pour les indépendants, effectivement, pour encore une fois les mêmes raisons. Il a des principes, puis il n'a pas voulu en déroger, puis il a choisi sa famille avant son parti. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent par rapport à son retour au gouvernement maintenant que le dossier s'apprête à être réglé. Donc, il va falloir suivre ça. Je vais être curieux d'entendre, si jamais ça se concrétise, quelle est son explication pour le retour. Là. Mais pour l'instant, c'est M. Carman qui est mon étoile.
Bon, on se lance dans ma catégorie préférée, Pascal, les prix citron. Puis là, honnêtement, depuis tantôt, je me dis, OK, à qui qu'on donne ça, à qui qu'on donne ça, parce que ça a quand même été une année difficile. Geneviève Guilbeault, pour avoir dit 41 fois qu'elle s'en souvenait pas à la Commission Galant.
Aïe, aïe, aïe. Moi, je me prononce pas. Je veux savourer cette catégorie-là.
Vas-y, l'envers.
Ouais, moi, ben, écoute, la commission Galant, c'est sûr que ça a beaucoup fait parler. Puis au niveau de la forme, c'était pas super chic quand les ministres sont passés pour témoigner. Il n'en demeure pas moins que moi, dans ce dossier-là, ça fait longtemps que ma tête est faite puis que je mets beaucoup plus la faute de ce scandale-là sur l'appareil bureaucratique, la SAQ, les dirigeants, le conseil d'administration. Les ministres ont certainement une part de responsabilité, mais je pense pas que ce soit quelque chose de majeur à leur niveau quand tu regardes le portrait dans son ensemble. Alors, j'y suis allé pris citron à Christian Dubé. Bon c'était choix. Très louable. C'était courageux ce qu'il a entrepris. C'était tout un chantier. Aucun gouvernement depuis 50 ans qui a eu le courage de s'attaquer à la rémunération des médecins pour, encore une fois, essayer de garantir un accès à des médecins au plus grand nombre de Québécois possible. Malheureusement, dans la manière, sur la forme, une loi déposée par Bayon en plein milieu de la session, en plein milieu de la nuit, qui était visiblement remplie d'angles morts parce que s'étant suivi après ça, un paquet de sorties de médecins qui disaient qu'ils perdraient 10, 20, 30 % de leur salaire avec les nouvelles normes. En plus, un système de surveillance avec des enquêteurs dans les milieux de soins qui les surveillent. Bref, puis écoute, sur les communications, on s'en est déjà parlé, Jeff, là, mais quand tu sors ton projet de loi et que tes propres députés sont pas capables de l'expliquer et que tu es pogné pour répondre en période de questions, que tu vas faire des webinaires, les fameux webinaires. Les webinaires, eh bien, c'est tough. C'est très, très tough. Ça va mal à la shop quand t'es pogné pour expliquer ça à travers des webinaires. Alors, l'opinion publique a changé de bord à partir de ce moment-là. T'as des médecins qui se sont mis à quitter. T'as des cliniques, des GMF qui se sont mis à fermer. Donc, une loi qui contenait évidemment beaucoup d'angles morts, qui allait beaucoup trop loin. Et pour prendre une analogie sportive, ben, le gouvernement a perdu l'avantage de la glace et a signé une entente un peu à reculons où pratiquement tout ce que la loi 2 contenait a été mis aux poubelles. On en garde, ce qu'on comprend, c'est qu'on garde un 50 % de la rémunération quand même qui va être liée à la prise en charge par patient, donc par patient prise en charge et non plus en grande partie à l'acte médical fait. Mais pour le reste, on reste un peu sur notre faim, puis on se demande surtout tout ça pour ça.
Oui, exactement.
Tout ça pour ça. Toute cette espèce de chicane qui dure depuis le printemps dernier, tout l'été, le centre Bell qui avait été loué par les médecins, des cliniques qui ferment pour, au final, des gains qui demeurent à prouver.
En effet. Lambert, il nous reste 3 minutes. Fait que pour les prix citron, on va y aller en duo avec quelques commentaires. Moi, libéraux, ben Pablo Rodriguez pour l'ensemble de l'œuvre. PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon pour des sorties où on est très émotif pour rien.
Oui, je suis à la même place que toi. C'est les deux mêmes. Pablo, écoute, on. Prix citron pour Pablo pour l'ensemble de l'œuvre. Écoute, aujourd'hui, j'avais la réflexion sur what could have been sais, ce gars-là était à quitter quand Justin Trudeau était au plus bas des sondages, quand c'était clairement un fin de règne pour lui, a quitté le bateau pour traverser la rivière des Outaouais. Et c'est à se demander, avec du recul, avec tout ce qu'on sait maintenant, qu'est-ce qui se serait passé s'il s'était accroché, il s'était présenté avec Mark Carney à l'élection. Probablement qu'au moment où on se parle, il serait ministre encore au gouvernement du Canada. Et là, on ne sait pas trop quelle est sa part de responsabilité dans tout ce qui se passe. On ne sait pas trop s'il a été victime des circonstances plus qu'autre chose. Mais écoute, c'est d'un point de vue humain, là, si on veut glisser un mot là-dessus, ça doit être extrêmement difficile pour lui
Vraiment.
présentement. Ça doit être très difficile pour sa famille. Je cautionne évidemment rien de ce qui est allégué, mais on lui souhaite la meilleure des chances pour la suite. Parti québécois, même chose, Paul Saint-Pierre Plamondon. Écoute, ça va être une année, un gros défi pour lui. Il est le premier ministre en attente. Le PQ est premier dans les sondages depuis plus d'un an. Pour être un aspirant premier ministre, il faut que tu sois capable de t'élever en hauteur. Quand tu as parlé de l'attaque comment il a dit ça, l'aplat ventriste, mais la vacuité intellectuelle d'une partie substantielle du milieu culturel, qui sont d'ailleurs des alliés de toujours de la cause indépendantiste, c'était un mauvais coup et il va falloir qu'il apprenne à s'élever, à être en hauteur, à ne pas prendre chaque attaque qu'il se voit lancer dans sa direction comme une attaque personnelle, parce que plus il va avancer comme le gouvernement en attente, mais plus il va en avoir beaucoup de ces attaques-là. Il va falloir qu'il choisisse ses combats. Québec solidaire, Alexandre Leduc, qui est le porte-parole en matière de travail, qui a été l'un des rares à prendre position en faveur des syndicats qui ont paralysé le réseau de transport
Excellent
en commun
choix.
à Montréal. Écoute, ça s'explique mal. Ils ont fait le choix, on le sait, là, les syndicats de Québec solidaire, ça a toujours été des alliés. Maintenant, dans une situation où ses propres commettants, ses propres électeurs dans Hochelaga n'étaient pas capables de se rendre au travail, n'étaient pas capables de se rendre à l'hôpital, a préféré choisir, disons, le dogmatisme ou à tout le moins le principe des syndicats plutôt que de défendre ses électeurs. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça. Chez les indépendants, j'en ai deux qui mangent un peu la claque pour la façon avec laquelle ils ont quitté. Vincent Marissal, qui a milité pour ce parti-là pendant 7 ans, finalement approche le PQ alors que ce gars-là n'a jamais été un grand porte-parole de la cause indépendantiste au courant de ses années comme député. Et là, a quitté avant de se faire mettre dehors. Et au passage, a lancé toute sa gang avec qui il a fait équipe pendant plusieurs années en dessous de l'autobus. Ça manquait beaucoup de classe, la manière avec laquelle il a quitté. Et la même chose pour Maïté Blanchette-Vézina, qui a quitté en plein caucus en insultant ses anciens collègues. Et depuis, elle joue à la belle-mère dans les médias en parlant entre autres de discussions qu'elle avait eues à l'époque où elle était ministre avec M. Legault, qui était à ce moment-là sous le couvert de l'anonymat, pas de l'anonymat, mais sous le couvert de, tu sais, qui étaient des discussions privées. Je suis pas un grand fan non plus de sa façon, de la façon avec laquelle elle a quitté le parti et de la façon dont elle se comporte, ou dont elle s'est comportée, je dirais, dans les semaines qui ont suivi son départ. C'est moins pire depuis. Mais beaucoup, beaucoup de misère avec ces deux départs-là et la façon dont ces deux députés-là l'ont fait.
Je comprends ton point de vue, Lambert Drainville. On se reparle vendredi pour nos souhaits 2026 en politique.
Yes, sir. À vendredi, la gang.
À vendredi,
Salut.
Lambert Drainville. Merci beaucoup, Lambert Drainville. Excellent vulgarisateur politique qui va faire une entrevue avec Pierre Poilievre
oui.
dans un salon de thé.
Oui.
Pascal, ça va être déjà tout pour nous aujourd'hui.
C'est terminé, mais...
Déjà terminé. Allez,
demain matin.
Ouais.
Jeff.
Allez réécouter sur blvd.fm l'entrevue qu'on a faite ce matin avec François Legault. D'ailleurs, demain matin, Pascal Paradis sera avec nous aux alentours de 7h25 pour commenter le dossier du Mont-Saint-Anne, parce que peut-être qu'on va avoir le rapport ce soir qui devrait être catastrophique pour la compagnie RCR. Luc Laliberté avec nous demain midi et demi pour revenir sur l'annonce à la Nation de Donald Trump. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Passez une superbe fin de journée sur nos ondes à Boulevard et on se reparle demain matin 6h. Bye bye guys.
Bye.